France Culture.
Question d'islam par Al Bensheir. Aujourd'hui, nous parlons de l'islam au Bangladesh. D'abord parce qu'il faut savoir décentrer le regard et en finir un peu avec l'arabocentrisme ou l'islam maghrébin ou l'islam subsaharien. Il est temps aussi de parler de l'islam en Asie, mais là tout particulièrement au Bangladesh pour deux raisons. D'abord, j'ai grand plaisir d'accueillir Sharza Shahabuddin. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup.
Merci à vous, merci de nous faire l'amitié de venir nous parler d'abord de l'objet même de vos travaux. Votre thèse de doctorat en sciences politiques porte sur la production des normes islamiques au Bangladesh, avec ce triptyque construction, négociation et violence. Et j'ai pensé que ça serait utile, on est à 8 mois peut-être d'un changement de régime, on pourrait dire, au Bangladesh. D'abord parce que Sheikha Hasina, moi je lui donne le nom au féminin, Sheikha Hasina, a dû partir le 6 août dernier, comme ça peut arriver à ceux qui prennent longtemps le pouvoir. Et on a pensé, le 11, ce sont peut-être les manifestants, mais ça vous pourrez le corriger, mais davantage l'opinion publique et du peuple du Bangladesh que Mohamed Yunus, prix Nobel de la paix 2006, qui était d'ailleurs même nommé pour le prix Nobel de l'économie pour cette même année-là, devait être premier ministre intérimaire. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer durant tout ce temps-là? Et puis, si vous nous parliez davantage de l'islam au Bangladesh, nous vous en saurions gré. Je dis simplement pour nos amis auditeurs que vous êtes docteur en sciences politiques, je l'ai dit. Vous enseignez à Sciences Po Paris, à l'INALCO aussi. Nous aurons un jour à consacrer une émission ad hoc pour l'islamisation de cette partie du monde, de Bengale. Mais si vous voulez bien nous dire comment l'islam est venu dans cette partie de l'Inde orientale, et puis comment sommes-nous arrivés à l'appeler le Pakistan oriental ?
Puisque nous décentrons notre propos aujourd'hui, je voudrais juste rappeler quelques données. D'abord, le Bangladesh est un jeune État-nation qui est né en 1971. Et une des particularités de pourquoi est-ce que je pense que c'est aussi très important d'en parler aujourd'hui, c'est quand même le 4e pays le plus peuplé de musulmans au monde. C'est vrai qu'on a une vision très arabo-centrée en France.
Enfin, 4e pays, le 3e étant l'Inde, mais la minorité musulmane en Inde est plus importante.
Exactement, exactement. Et ce qui revient sur certaines préconceptions ou préjugés que nous pourrions avoir. Et donc, une donnée quand même très fondamentale, c'est qu'on parle d'un pays qui a environ 171 millions d'habitants, donc 11% de musulmans sunnites. Et je reviendrai sur les principaux points par rapport au Pakistan oriental, Pakistan occidental. On a à peu près 8% d'hindous, donc ce qui représente 13 millions de personnes. Deux dates clés aussi.
Je ne veux surtout pas vous interrompre à chaque fois, mais j'ai cru comprendre que sur les 91% de la population qui est de confession islamique, les sunnites représentent 96%, donc on aurait 3% de chiites et des ahmadis, voilà, mais je ne sais pas si vous qui savez mieux que moi ces choses-là.
Alors moi dans les données que j'ai à peu près, c'est plutôt 91% de musulmans sunnites et le reste, donc à peu près 8% de hindous, donc ces chiffres évidemment varient, et un pourcentage un peu moins de 1% de chrétiens, d'animistes et de bouddhistes, et parmi ceux-là les chiites, les barélevites, les ahmadis sont vraiment en dessous de 1%. Je peux revenir juste quand même sur deux dates clés pour un petit peu centrer mon propos. C'est avant toute chose, je pense que nos auditeurs sont familiers de 1947, la partition de l'Inde, la partition des Indes qui a donné lieu naissance à l'Inde actuelle et au Pakistan oriental et occidental. En fait, donc à ce moment-là, on a eu la bonne idée de séparer les deux Pakistans, le Pakistan oriental étant le Bangladesh et le Pakistan occidental, le Pakistan actuel, séparés par environ 2000 kilomètres, donc l'Inde. Et ce qui a évidemment donné lieu à un certain nombre de conflits, beaucoup de disparités, d'inégalités économiques, et ce qui a mené après 1947, en 1971, à la guerre d'indépendance du Bangladesh, qui a opposé l'armée pakistanaise, soutenue, et ça c'est important parce que je reviendrai dessus, soutenue par des milices de la Jamaat-e-Islam, le principal parti islamiste présent au Bangladesh, mais aussi en Inde, créé par Maududi en 1941 au Pakistan. Contre des civils bengalis, et pas que bengalis, la population du Bangladesh, et ces civils qui ont combattu, qu'on a appelé ensuite les Muktijodha, les combattants pour la liberté. Donc ça, c'est 1971. C'est aussi assez important par rapport à mes travaux où j'étudie notamment la Jamaat-e-Islam, la position du Jamaat-e-Islam, comment est-ce qu'ils ont évolué, simplement pour dire qu'effectivement, ils ont eu un rôle très important à jouer en collaborant en fait avec l'armée pakistanaise, qui a eu un certain nombre de procès après, et qu'aujourd'hui on les voit revenir sur le devant de la scène comme partenaires entre guillemets légitimes démocratiques. Justement, Mohamed Yunus dont vous parlez, je vais revenir dessus aussi. Mohamed Yunus s'est aussi à plusieurs fois entretenu avec les principaux leaders de la Jamaat-e-Islam. Alors ça, c'est pour les dates 1947-1971. Et je pense qu'aussi, c'est important de rappeler qu'après 71, on a eu plusieurs pères fondateurs. Ça, c'est un de nos problèmes. On veut absolument avoir un père fondateur à chaque fois. Mais il y a eu plusieurs pères fondateurs, mais notamment l'un qui s'appelle Sheikh Mujibur Rahman, qui n'est autre que le père de Sheikh Hasina, l'ancienne première ministre qui a effectivement fui le pays le 5 août dernier pour aller s'exiler en Inde. Sheikh Hasina, du parti de la Ligue Aumi, a été au pouvoir pendant 15 ans. C'est ça qui s'est passé aussi. Donc, ils sont arrivés au pouvoir en 2008, jusque donc la révolte de l'été dernier, le 5 août 2024, après un mouvement étudiant.
Mais elle a exercé le pouvoir aussi avant, dans sa rivalité quasi légendaire avec Khalid Azia. Ce qui est étonnant et peut-être même curieux et à souligner, c'est qu'au Bangladesh, État-nation récent et moderne au sens contemporain, peut être aussi moderne dans tous les sens du terme, avait à un moment donné le premier ministre une femme et le chef de l'opposition une femme. Et l'alternance donnait lieu à ce que ce soit une femme qui exerce le pouvoir.
Exactement, c'est très intéressant. Et pourtant, quand on regarde d'un petit peu plus près, fondamentalement, il y a un caractère un peu héréditaire, dynastique, puisqu'à chaque fois, il s'agit de la fille du premier ministre, ou ensuite de la veuve du dictateur militaire Jiaur Rahman, dont je reparlerai évidemment, puisqu'il est aussi beaucoup à l'origine de ce qu'on peut appeler l'islamisation par le haut, l'islamisation de la constitution du Bangladesh. Je vais revenir dessus, je voudrais juste dire quelque chose.
Je vous en prie.
C'est que d'abord, le Bangladesh, contrairement à d'autres États d'Asie du Sud qui se sont affranchis de la domination coloniale par le biais de négociations politiques, le Bangladesh donc a d'abord obtenu son indépendance à l'issue d'une guerre de libération meurtrière. Donc je vous parlais de la Jamaat-e-Islam. Et c'est aussi l'échec d'un nationalisme musulman unitaire entre ces deux Pakistans dont je vous parlais, Pakistan oriental et occidental, qui a conduit le nouvel État bangladeshi à spécifier ses natures fondamentales, qui m'amène à dire que dans la Constitution de 72, on a parlé de sécularisme.
Oui, et l'échec du nationalisme est dû aussi, mais vous le préciserez davantage, à une approche peut-être d'un nationalisme ethno-religieux, et peut-être le fait que le Pakistan occidental, le Pakistan en tout cas, a minimisé ou minoré l'importance de l'attachement à la langue, parce qu'en 1952, il va y avoir une sorte de révolte pour la reconnaissance de la langue bengali, et le fait que l'identité des bengalis n'était pas reconnue par le pouvoir central. Parce que ce qui est curieux, c'est qu'on a le pouvoir central plutôt dans la partie occidentale, et le Pakistan oriental était un peu délaissé.
Exactement. Merci de sa marque, tout à fait. Parce que la raison d'être du Pakistan à l'époque était donc l'islam. Et du côté du Bangladesh, enfin, du côté du Pakistan oriental, en 1948, l'administration centrale pakistanaise déclare l'ourdou comme langue officielle. Et effectivement, la région du Bengale est riche d'une littérature, je vous parle pas de Tagore et de Nazrul, etc., mais d'une littérature qui est très ancrée sur la langue bengali, la défense de la langue bengali. Et donc, dès 1952, il y a eu ce qu'on appelle le mouvement national pour la langue, le mouvement linguistique Bhashandolan Dibos. Aujourd'hui, tous les 21 février depuis 1999, l'UNESCO a reconnu cette journée comme la journée internationale des langues maternelles. Et donc, effectivement, il y a ces deux spécificités quand même du nationalisme bengali, c'est la langue, la défense de la langue bengali. Et le deuxième point, c'est aussi ce sécularisme. Ce sécularisme au sens de... Alors, évidemment, c'est un petit peu différent de la laïcité française, mais il y a quand même beaucoup de choses en commun, on pourra en reparler, mais c'est l'idée de neutralité religieuse de l'État. Mais pourquoi je vous parle de sécularisme, c'est aussi pour vous parler de la langue. Le terme dans la Constitution pour désigner sécularisme, c'est dharmo nirpekhata. Et dharmo, c'est le terme qui désigne religion. Et vous remarquerez que nous, pour un pays où on a justement une population majoritairement musulmane, nous n'avons pas gardé le terme, enfin nous n'avons pas le terme en fait en arabe, mais bien un terme qui vient du sanskrit et même de l'alphabet Devanagari et qui est un terme polysémique. Et dharmo, donc c'est la religion, mais c'est aussi ça vient du sanskrit, ça veut dire soutenir, maintenir. Et donc je pense extrêmement c'est fondamental d'avoir ça en tête, qu'on a ce terme qui est profondément ancré dans la nature, l'esprit bengali, pour désigner le sécularisme.
On verra tout au long de l'émission que finalement, ou hélas, le président Ershad, on est en 1988, va décréter, et je ne sais plus sur quelle base, que c'est l'islam qui serait religion d'État. Alors j'ai cru comprendre que pour ce qui concerne la production du droit, on s'inspirait et on copiait le modèle de la common law britannique, tandis que ce qui concerne la famille, le statut personnel, l'héritage, la dévolution successorale, on considérait les citoyens selon leur appartenance confessionnelle, et de ce point de vue-là, on avait un droit spécifique selon les catégories des citoyens eu égard à leur confession.
Tout à fait, on avait un peu un modèle qui était similaire à l'Inde par rapport au code britannique et ensuite les droits spéciaux sur les mariages. Juste, je pense, avant de passer à Ershad, il y a quand même deux moments. Après 1975, donc il y a eu l'assassinat de Sheikh Mujibur Rahman, il y a eu un premier moment d'islamisation de la Constitution sous donc Jihad Rahman, la première dictature militaire, où on va modifier le préambule par un amendement, on va modifier le préambule pour retirer sécularisme et mettre Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le miséricordieux. Et aussi c'est à ce moment-là qu'on va permettre aux partis de la Jamaat-e-Islam de revenir sur le territoire, puisque vous vous souvenez, ils étaient responsables de crimes de guerre. Et ensuite, en 1988, sous un nouveau général militaire, dictateur militaire qui était nommé Ershad, on va avoir l'islam comme religion d'État, mais c'est profondément, alors là pour avoir mené un certain nombre d'entretiens avec des personnes plutôt de la société civile, des organisations de l'époque, où je voulais comprendre comment est-ce que l'islam était devenu religion d'État. Est-ce que c'était quelque chose qui avait été demandé? Est-ce que c'était plutôt des groupes islamistes qui étaient à l'origine de cette demande? Souvent, ce qu'on m'explique...
Et qui demeure une question ouverte, considérée comme anticonstitutionnelle, qui n'est pas encore tranchée, ou je ne sais pas si elle était tranchée ou pas.
Alors, encore une fois, merci beaucoup pour cette question. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu un certain nombre de va-et-vient d'amendements constitutionnels. Depuis 2016, le Bangladesh est une république séculariste, avec l'islam comme religion d'État. Et j'avais posé cette question, je me souviens très bien, à une table ronde spécifique avec des experts du djihadisme, du contre-terrorisme à l'époque, où j'avais demandé, justement, par rapport aux politiques qui étaient mises en place à l'époque, c'était le gouvernement de la Ligue Aoumi, est-ce que c'est contradictoire? C'est vraiment la question qu'on se pose. Est-ce que c'est contradictoire? En tout cas, nous, de ce côté du monde, c'est ce qu'on se dit. Et je me souviens très bien qu'il y avait une personne, et c'est important, l'auteur de cette réponse, c'était quelqu'un du DGFI, qui est le renseignement militaire. Le DGFI est un petit peu une copie, enfin pas une copie, mais en tout cas, se conforme beaucoup au ISI, les services secrets pakistanais. Et je vous dis ça parce qu'ils sont quand même une tendance à avoir une certaine vision de l'islam, plutôt, enfin en tout cas au Bangladesh, plutôt conservatrice. Et lui me répond vraiment de manière assez brute, pas du tout. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, avec the Queen of England, etc. Et c'était sa réponse, c'est qu'il n'y a pas de contradiction, que le peuple bangladéchi est profondément musulman, donc c'est nécessaire de l'inscrire parce que c'est notre identité. Et en même temps, le sécularisme, parce que ce projet fantasmé d'égalité entre toutes les religions. Je me permets aussi de parler de cette question sur l'identité musulmane, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, en 1971, il y avait aussi cette nécessité de spécifier ce que c'était le projet du Bangladesh. Pourquoi le sécularisme ?
Étymologiquement, le pays du Bengale.
Tout à fait, tout à fait. Mais c'était aussi cette question de une chose que j'ai pas dite pour nos auditeurs, c'est que la Jamaat et l'Islam et les milices et l'armée pakistanaise, ils ont systématiquement ciblé les populations hindoues. Alors aussi les Bengalis par la suite et les non-Bengalis, les Adivashis, les tribus, etc. Mais c'était systématiquement les hindous. Et c'est aussi pour ça que le projet des Freedom Fighters, le premier projet du Bangladesh, c'était un pays où le sécularisme voudrait dire plus jamais l'instrumentalisation politique de la religion. Et c'est un pays pour les hindous et les musulmans. Et du coup, la naissance du Bangladesh, et c'est pour moi très important, remet complètement en cause la logique de la partition de 1947.
Et surtout que la guerre dite de libération, sur 9 mois, me semble-t-il, a été le théâtre de violences extrêmes, avec ça varie entre 300 000 et 3 millions de victimes. Et le but, c'est d'avoir un État-nation moderne qui ne soit pas celui d'une catégorie de citoyens qui a une prééminence sur d'autres minorités. La preuve, c'est que le parti Awami de Mujibur Rahman est un parti, on va dire, sécularisé.
Tout à fait. Déjà, c'est aussi très important de le rappeler, vous parlez de 300 000, en fait, il y a un consensus sur les chiffres, c'est entre 1 million et 3 millions de morts. Hein, et on parle de 200 000 à 400 000 femmes violées, enfants inclus. Il y a beaucoup de juristes, beaucoup d'avocats, il y a toute une commission qui travaille depuis 92 à qualifier cette guerre de génocide. Alors, on sait que c'est compliqué, mais c'est quelque chose à garder en tête. Par rapport à l'identité, ce que je voulais vous dire, c'était que du coup, à ce moment-là, l'identité bengali, elle devait un petit peu... Il y avait ce grand débat qui existait entre l'Aligaumi, qui est porteur de ce projet séculariste, c'est-à-dire l'identité bengali avant d'être musulman. Et ensuite, quand il y a eu une islamisation à travers les deux régimes militaires dont je vous parlais, c'était... Alors, je caricature un petit peu, mais c'était l'idée vraiment de dire c'est l'identité musulmane avant d'être bengali. Et en fait, on se rend compte que c'est peut-être un peu schématique parce que pendant les 15 ans où la Ligue Amini a été au pouvoir, il y a eu évidemment aussi une instrumentalisation politique de la part des leaders politiques. Il y a eu un certain nombre de consensus, de compromis qui ont été faits avec des partis islamistes de la part de la Ligue Amini qui se dit séculariste. Dans mes recherches...
La Ligue Amini veut dire en gros la Ligue du Peuple.
Exactement, exactement. Et j'avais remarqué en faisant mes recherches que, par exemple, à partir de 2008, dans le manifeste, on a complètement... le terme sécularisme n'apparaît plus jamais. Donc c'était aussi une manière de se distancier qui, au final, on se rend compte qu'à peu près tous les partis politiques ont travaillé et établi un certain nombre de compromis, notamment via, et ça je vous en parle aussi parce que c'est un gros pan de ma recherche, via les madrassas et les écoles coraniques, qui sont liées à des organisations à chaque fois, donc soit la Jamaat Islam pour les Aliyah madrassas, qui sont un peu les madrassas réformées, les madrassas gouvernementales, et de l'autre côté, les Kwami Madrasa, qui sont les madrassas qui ne sont pas sous la tutelle du gouvernement et qui sont plutôt en lien avec une organisation qui s'appelle le Hefazat Islam, les protecteurs de l'islam. Et c'est du coup le parti que la Ligue Amini avait décidé de privilégier alors qu'ils ont appliqué une politique, on va dire, de diabolisation de la Jamaat Islam, qui est du coup encore une fois liée au passé, à 1971. Et l'établissement ensuite, en 2013, donc sous la Ligue Amini, de ce qu'on a appelé, en fait, en 2009 et en 2013, il y a eu les procès, d'un tribunal pénal international, mais qui n'a d'international que le nom, pour juger des crimes de guerre. Et donc, on a eu un certain nombre de leaders qui étaient de la Jamaat Islam, qui étaient coupables de crimes de guerre, qui ont été jugés, dont certains à la peine capitale. Thank you.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons de l'islam au Bangladesh, à la fois pour ce qui s'y passe, pour comprendre l'identité du peuple bengali, quelle que soit la confession, même s'il y a une bonne majorité de musulmans, mais aussi parce que il y a une transition, espérons-le en tout cas pour le Bangladesh, vers la démocratie, avec Sharza Shahabuddin, qui est docteur en sciences politiques, qui est aussi enseignante à Sciences Po Paris et à l'INALCO, et dont les travaux de recherche portent sur le Bangladesh, à la fois pour parler des normes islamiques, construction, violence à la fin.
Construction, négociation, violence.
Négociation. Alors, les négociations, c'est entre qui et qui
Alors, j'ai vraiment centralisé beaucoup, donc je fais pas mal de sociologie politique de l'État, donc je me suis vraiment intéressée à l'État. Et l'État, évidemment, il faut définir l'État, mais du coup, en m'intéressant en particulier...
Ce monstre froid, où on ne dîne pas avec l'État, comme disait Georges Burdeau.
Exactement, on ne dîne pas avec l'État, mais on peut dîner avec le ministère, leur enseignement, certaines parties de l'armée, des parties, des autorités chargées de faire respecter la loi, des experts du contre-terrorisme. Donc, je me suis intéressée comme ça à plusieurs sous-organismes, on va dire, qui travaillent pour l'État, notamment beaucoup le ministère de l'Éducation nationale, ou en tout cas le ministère chargé de faire, enfin la partie du ministère qui fait imprimer les manuels scolaires, ça m'a beaucoup intéressée, notamment sur ces comparatifs en fait de traitement différencié. En fait, parce que une de mes conclusions principales a été de voir qu'aujourd'hui au Bangladesh, en tout cas sur les 30 dernières années, et que ce soit la Ligue Aumi ou avant, on a une certaine primauté de la tradition déobandie dans les écoles coraniques, mais aussi dans la société. Et que, donc moi je me suis intéressée particulièrement à trois groupes, la Jamaat Islam, le Hefazat Islam dont je vous parlais. Le Hefazat, donc c'est un ensemble de professeurs et d'enseignants de Kwami Madrasa, les maîtresses qui ne sont pas sous tutelle gouvernementale, et qui ont une force de frappe. Moi je les considère comme étant presque un lobby, au vu de leur capacité à mobiliser et s'organiser. Et le troisième groupe, qui est très important et qui est présent aujourd'hui dans plus de 150 pays dans le monde, le Tablighi Jamaat, que j'appellerai le Tablighi Jamaat par facilité, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle au Bangladesh.
Qu'on appelle ici en France froid et pratique.
Et donc le Tablighi Jamaat, qu'on peut traduire par association pour la propagation de la foi musulmane, un mouvement piétiste. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de regarder le traitement différentiel de l'État par rapport à ces trois groupes. Et donc, comme je vous disais au début, sur la Ligue Aumi, en tout cas l'État représenté ici par le gouvernement de la Ligue Aumi, a effectivement eu une politique plutôt de diabolisation, de mettre de côté totalement la Jamaat Islam, bien que, quand on regarde de plus près, il y a beaucoup de militants de la Jamaat, des leaders qui sont rentrés à l'époque dans le parti. Donc plutôt diabolisation de la Jamaat, donc négociation et concession envers le Hefazat Islam. Et pourquoi je vous disais que j'avais regardé les manuels scolaires, en fait, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de demandes que ce groupe avait. Ce groupe est très conservateur. Ils avaient publié une charte en 13 points en 2013. Pour vous donner juste deux ou trois exemples, parmi dans cette charte, les principaux points, c'était les non-représentations de symboles, de sculptures, non-mixité entre hommes et femmes, voilà, ce anti-Ahmadi, ce genre de conservatisme. Et pourtant...
Est-ce que à ce niveau, pardonnez-moi, Sharza Shahabuddin, c'est là que Sheikh Hasina va les interdire, parce qu'il va y avoir une interdiction qui, pour certains, n'était pas conforme aussi à la Constitution de 1971, qui, elle, tolérait, si je puis dire, les partis à base confessionnelle, même si c'est la Ligue Awami qui a finalement eu la majorité absolue à ce moment-là. Mais Sheikh Hasina était implacable vis-à-vis de ce parti, notamment Jamaat Islam.
Alors en fait, le 2013 est un moment charnière, puisque c'est là où il va y avoir un changement de stratégie de Sheikh Hasina et de la Ligue Awami en tout cas. 2013, c'est le moment où du coup il va y avoir ces procès pour juger les crimes de guerre des leaders de la Jamaat. Il y a un mouvement très important qui s'appelle Shahbag Movement, où ce sont des jeunes plutôt apolitiques, en tout cas pas que apolitiques, mais très... politisé dans le sens où c'est à l'initiative de blogueurs athées, ça, on en reparlera, qui eux ont demandé à ce moment-là l'interdiction du parti de la Jamaat. Et donc, en utilisant, je crois que c'est l'article 65, je ne sais plus exactement, mais qui, en montrant en tout cas que la charte de la Jamaat e-Islam était anticonstitutionnelle, puisqu'il considérait que la souveraineté du peuple n'était pas la source principale de la démocratie, mais celle de Dieu, que c'était donc en cela anticonstitutionnel. Ils ont utilisé un certain nombre d'autres arguments pour pouvoir leur interdire de concourir aux élections depuis 2013. Effectivement, depuis que Mohamed Yunus est arrivé au pouvoir, il a levé cette interdiction. Et c'est donc cette année, en 2013 aussi, que le Hefazat e-Islam va, peu après le mouvement Shahbag, montrer sa force de frappe dans le sens où ils vont être des milliers. Donc disons que les Kouami Madrasa, en tout cas l'école fondatrice, enfin les fondements sont plutôt dans le sud. Et en fait, en 2013, peu après ces manifestations dont je vous parlais, des milliers d'enseignants et d'étudiants de Kouami Madrasa vont arriver dans la capitale. Et il va y avoir un certain nombre, surtout sur une nuit, en avril 2013, beaucoup d'incidents avec les policiers qui vont tuer un certain nombre d'étudiants de Madrasa de Kouami. Et c'est à ce moment-là qu'on a un total changement et revirement de la politique de la Ligue Aoumi, où on va avoir un certain nombre de concessions de la Ligue Aoumi, non pas vers la Jamaat, mais le Hefazat e-Islam. Et à titre d'exemple, parce que je pense que ça nous permet de comprendre, ça va être par exemple des concessions du type retirer un certain nombre de poèmes à connotation ou avec des noms d'auteurs hindous. Pas que, hein, mais ça, ou enlever certaines sculptures, changer. Alors, ça peut être des choses qui peuvent paraître très minimes, mais ça peut être, par exemple, aujourd'hui, quand on apprend dans les manuels scolaires pour les écoles primaires, c'est le voile. En fait, on va plutôt mettre une petite fille voilée. Ce qui n'était pas forcément les images qu'on avait forcément avant, juste un petit revirement petit à petit plus conservateur.
D'autant plus, si nous devions parler uniquement de l'islam paisible ou débonnaire, toutes les femmes du Bengale musulmane et ailleurs portaient le sari.
Oui.
Rien d'autre n'avait pas à se voiler, elles le portaient parce que c'est ainsi depuis quasiment des siècles. Et donc là, petit à petit, va y avoir cette concession faite au Hefazat e-Islam.
Alors tout à fait, merci pour la question du sari. Alors c'est une grande question parce que même déjà si on regarde les politiques sartoriales, au moment de la colonisation britannique, il y a eu déjà beaucoup de changements par rapport au port du sari. L'ère victorienne a quand même beaucoup influencé sur le fait de porter des blouses, le haut qui va avec le sari. Aujourd'hui, ce qu'on observe, ça c'est une autre partie de mes travaux, où on voit aussi par exemple, comme je parle beaucoup de normes, à quel point est-ce que les femmes sont elles-mêmes créatrices de normes islamiques, donc il y a plusieurs points là-dessus. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup... Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est à l'échelle rurale. Je suis passée par une organisation, une grassroots organization, qui travaille beaucoup avec ce qu'on appelle les bumihin, les landless, les paysans sans terre, les paysans et paysannes sans terre. Et en discutant avec plusieurs de ces femmes, il y en a plusieurs qui me disaient, mais regardez, nous, quand nous sommes dans les champs, c'est très simple. On porte le sari, c'est l'habit de travail. On ne se verrait pas travailler avec autre chose. Ça, c'est pour un premier exemple, et plutôt à l'échelle rurale. Et encore une fois, je ne veux pas caricaturer, mais il y a... C'est des éléments à prendre en compte pour comprendre ce que je veux dire maintenant. Parce que de l'autre côté, depuis une dizaine d'années, on a aussi maintenant une nouvelle mode qui est celle des saris avec les hijabs. Donc assorti, ce qui effectivement du coup en tant que tel, c'est difficile de le dater, mais n'existait pas en tant que tel.
Et une forme de bricolage comme on assistait à la fois en Indonésie, à Jakarta ou à Casablanca.
Exactement, et d'ailleurs il y a des influences un petit peu de partout. Il y a une influence, ça me permet aussi de parler à la fois des pays donc plutôt asiatiques, mais aussi les pays du Golfe, mais aussi l'Iran. En tout cas, ces modes-là, elles font partie plutôt de groupes de mouvements piétistes de femmes qui sont issues, à l'inverse, d'origines beaucoup plus aisées et qui ont, elles, un positionnement identitaire sur l'échiquier du Bangladesh et du monde assez différent, qui sont vraiment plus dans cette... Et d'ailleurs, elles aussi, à des moments, sont créatrices de normes. Enfin, ça, je rapporte des travaux d'autres collègues anthropologues qui vont expliquer, par exemple, à des moments que des personnes qui sont plutôt, qui travaillent ou qui ont évolué dans les milieux diplomatiques du Bangladesh vont tout d'un coup, enfin, pas tout d'un coup, mais commencer à ne plus vouloir forcément, par exemple, serrer les mains.
Ah oui.
Donc ça, c'est des... Voilà.
Et pourtant, chère Hassina ou Khalida Zia, ni l'une ni l'autre n'était voilée, et qu'elles fussent l'une ou l'autre dans l'opposition aux affaires, elles vivaient naturellement cheveux au vent.
Alors, cheveux au vent, oui, mais c'est vrai que petit à petit, enfin, il y a toujours eu, vous savez, le, chez Cassina est d'ailleurs une des premières, c'est ça qui est très intéressant, parce que vous, tout à l'heure, on disait que c'était le parti séculariste, mais rien qu'en, à la fin des années 90, il y a une photo d'elle qui revient de la Mecque et qui a le petit bandeau noir. Et d'ailleurs, c'était à ce moment-là où, entre guillemets, on remarque aussi dans la société bangladeshi une forme, pas de mode, c'est pas du tout pour enlever le sens qu'il y a derrière, mais aussi beaucoup de femmes qui ont commencé à adopter ce petit bandeau noir au-dessus du voile du sari. Mais tout à fait. Il y a effectivement aujourd'hui, disons, quelque chose de beaucoup plus ostentatoire, de plus visible dans la manière de montrer qu'on est musulman, et beaucoup de questions sur le sari, quel est le vêtement authentique, ces questions que moi, ce que j'entends beaucoup aussi, c'est mais avant, on faisait comme ça. Et ce avant, on faisait comme ça, il est effectivement, on peut vraiment totalement le questionner.
Oui, nous n'allons pas nous appesantir et parler uniquement d'effets vestimentaires. Mais ce qui est curieux, c'est qu'en dépit de l'interdiction du parti islamiste par Cheikh Hasina, il y a une sorte de défaite politique, mais c'est comme si les idées en gagnaient sur le plan sociétal. Et cela est dû... l'idéologie de Maududi que vous avez évoquée tout à l'heure, enfin l'idéologue de l'islamisme dans cette région du monde et notamment au Pakistan, ou simplement parce qu'il y a une sorte de globalisation des idées islamistes.
Merci beaucoup pour cette question, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'islamisation, d'importance de l'islam, on a l'impression que c'est quelque chose d'établi, parce que il y a eu beaucoup de débats, notamment des jeunes que j'ai entendu me dire, mais les Bengalis sont plutôt comme ça, c'est leur identité musulmane compte énormément. Alors évidemment, mais derrière, il y a un certain nombre d'explications, notamment un certain nombre d'entrepreneurs politiques, identitaires, islamistes, et à mon sens, dans mon analyse des faits, de la situation actuelle, c'est profondément parce qu'on a un problème de proposition d'avenir pour les jeunes. Donc, comme je vous disais, on parle de 171 millions d'habitants. On a à peu près 30% de la population qui est jeune, en tout cas à moins de 30 ans. Et donc, on est dans un moment où on a eu un taux d'alphabétisation qui est autour de 74%. On est sorti de l'extrême pauvreté. Donc, on a une population qui est un minimum éduquée dans le sens où elle sait parler, elle veut faire des études. Mais le grand problème du Bangladesh, c'est qu'il y a un problème de débouchés. Depuis les années 80, il y a eu beaucoup d'incitations financières, il y a eu plusieurs politiques pour établir de plus en plus d'écoles, notamment des écoles coraniques, parce que ça coûte aussi moins cher. C'est aussi quelque chose qui, entre guillemets, paradoxalement, a aussi ouvert les portes de l'école à de jeunes filles. Il y a un très bon article comme ça qui s'appelle Going to School in Porda, ce qui est vrai parce que à l'échelle rurale, au sein de certaines familles, pour protéger le hijot, l'honneur, etc., c'était permis d'envoyer leurs enfants, leurs filles à l'école si elles portaient le voile et que c'était une école coranique. Mais le problème, c'est pas les madrassas en tant que telles, c'est les moyens qui n'ont jamais été mis en œuvre dans ces madrassas. Et comme je vous disais, on a eu les Aliyah madrassas qui sont les réformés. Mais même dans ces madrassas-là, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout un niveau qui est égal, que les infrastructures ne sont pas toujours les bonnes. Et de l'autre côté, les Kwami madrassas, c'est vraiment, je dirais, les madrassas qui sont un peu laissés à l'abandon, avec la formation de beaucoup de leurs enseignants qui laissent à désirer, qui pendant les entretiens vont vous dire un certain nombre de choses qu'ils apprennent, et ensuite quand vous allez parler aux étudiants, moi je donne un exemple, souvent j'ai deux moments clés qui m'ont marqué. Je demandais à un étudiant un étudiant de 12 ou 13 ans, alors quel serait ton grand rêve? Il était incapable de me répondre. Voilà, et donc pour vous, j'espère que c'est assez, ça illustre ce que je veux dire. Je pense que le grand problème de pourquoi est-ce que on est autant sur ces questions d'identité sur l'islam, c'est qu'on a un système éducatif qui veut transmettre l'islam, mais qui ne transmet pas l'islam en lien avec ce que ça pourrait être au Bangladesh. C'est-à-dire qu'on va cibler, par exemple, l'apprentissage de l'histoire et de la civilisation arabe, ce qui est évidemment importante. Mais si vous ne faites pas ça à côté de l'histoire du Bengale, du Bangladesh, par exemple. Ça me permet de revenir sur un point que vous avez dit au tout début, c'est qu'on a une méconnaissance profonde des trajectoires d'islamisation du Bengale au Bangladesh. C'est-à-dire qu'une des croyances qu'on a, enfin une des théories qui est le plus accréditée au sein de la société, qui est aussi très politisée, on a l'autre côté avec Modi, c'est l'inverse, hein, en Inde, c'est vraiment cette idée que on a été oppressé par les hautes castes brahmaniques, et donc les Bengalis se sont convertis.
Donc à Mohamed Al-Ghouri est venu un peu presque comme libérateur.
Exactement. Alors, ce qui n'est absolument pas pour dire que ça n'a pas existé. Il y a eu totalement ces cas-là. Il y a eu d'autres thèses accréditées. C'est la thèse de l'immigration, donc que l'islam serait venu par les mers, les commerçants.
Soufis.
Exactement. Alors ça, petit aparté, c'est vrai, il y a eu les saints soufis. On a notamment l'aéroport actuel à Dakar qui s'appelle Hazrat Shah Jalal, qui est le saint soufi qui serait rentré dans le Sylhet par le nord au XIIIe siècle. Alors, toutes ces théories c'est pas que elles sont plus ou moins vraies, elles sont importantes à apprendre, mais elles sont absolument pas, déjà, elles sont pas enseignées de cette manière-là, elles ne sont pas enseignées en se posant les bonnes questions, c'est-à-dire, ok, toutes ces thèses d'immigration, etc. existent, mais comment peut-on expliquer une telle concentration de population à un moment de musulmans dans le Bengale, sachant que c'était un endroit, plutôt...
Ça n'est pas fait en faisant appel à la science historique, c'est fait pour être instrumentalisé pour des considérations politiques.
Exactement.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui, particulièrement, nous parlons de l'islam au Bangladesh. Alors, nous n'avons pas parlé de l'islamisation du Bengale d'une manière générale. Pour cela, nous réserverons une émission ad hoc. Et si vous souhaitez, cher Sharza Shahabuddin, vous y participerez. Aujourd'hui, nous parlons de l'islam au Bangladesh et l'islam contemporain. Pour cette dernière partie, ce qui s'est passé cet été, l'été dernier en tout cas, en août 2024, et qui a fait partir Sheikh Hasina, elle a dû fuir à Calcutta en hélicoptère. Et donc c'est plutôt le gouvernement intérimaire assuré par Mohamed Younous qui est encore aux affaires. Comment se fait-il qu'on ait fait appel à Mohamed Younous ?
Alors, merci beaucoup. C'est une excellente question parce que c'est vrai que de ce côté du monde, dans le monde occidental, même si ça veut tout et rien dire, mais quand même, on m'a plusieurs fois posé cette question, c'est les étudiants. Et c'est vrai qu'en ce moment, donc, il y a quand même beaucoup de choses encore un petit peu opaques et pas très claires, du côté du Bangladesh avec toutes les forces politiques qui existent, parce que vous vous imaginez qu'il n'y a pas du tout de consensus forcément autour, de la personne de Mohamed Younous. Il est dit que des étudiants l'ont appelé. Et il y a beaucoup de journalistes qui sont en ce moment en train de travailler et de faire du terrain pour dire mais qui vous a appelé. Donc c'est pas si clair que ça. En tout cas, ce qui est évident, c'est que Mohamed Younous a été appelé parce qu'il représentait une certaine figure consensuelle, comme vous l'avez dit. Il a aussi eu le prix Nobel 2006, fondateur du microcrédit, très connu à travers le monde, etc. Et je pense que c'est une des choses
qui a... Il a payé $27 de sa poche pour rembourser les dettes de celles, surtout ce sont les femmes et des mères de famille, qui étaient exploitées par des usuriers. Et le taux d'usure était de 20% par mois, c'était énorme. Sa trajectoire de vie, tantôt on dit, c'était plutôt un milieu modeste, tantôt on dit, non, c'est une famille plutôt aisée, puisque son père était joaillier ou bijoutier. Mais c'est son père qui était un musulman pieux, ouvert sur le monde, qui lui a inculqué les idées et les valeurs d'entraide, de solidarité, de sollicitude, de prise en compte de l'intérêt d'autrui. Et donc, Mohamed Younous, ayant vécu dans cette optique-là, est resté marqué à la fois, je ne sais pas, c'est vous qui allez me le dire, par sa foi et aussi par humanisme.
Ben Bidinus, quelque part, il est sur la question vraiment de sa foi et de l'islam, il est comme chez Kassina. En fait, à chaque fois qu'on a eu des leaders politiques importants, ce sont à chaque fois des musulmans pieux, mais qui pour moi représentent fondamentalement l'islam du Bangladesh, c'est-à-dire pieux, mais sans que forcément ce soit visible. Avec...
On ne le met pas en avant, ne le tait pas non plus. Enfin, ce que j'ai appelé tout à l'heure un islam débonnaire et paisible.
Tout à fait. Et il y a une chose qui s'est passée, je pense aussi, dans la manière de pourquoi est-ce que c'était Mohamed Yunus, c'est que il faut savoir qu'en 2007, il avait essayé de créer un parti et que cela a... Enfin, il y a eu beaucoup de problèmes avec Cheikh Hasina qui était... disons qu'il l'a très très mal pris. Et du coup, après ça, sur les 10 dernières années, il y a eu un nombre incalculable de... Comment on appelle ça? De cas
d'accusations, de diffamation
contre Mohamed Yunus, qui a paradoxalement complètement contribué à l'inverse de ce que Cheikh Hasina voulait, et du coup ça l'a fait sortir comme il a été victime, disons, de ces campagnes de diffamation. Et d'ailleurs, excusez-moi, je me permets un parallèle, un peu comme la Jamaat-e Islam. Comme la Jamaat-e Islam a été bannie pendant 13 ans, ce sont des personnages qui aujourd'hui, maintenant qu'on met fin à un pouvoir qui a été en place pendant 15 ans, eh bien qui apparaissent comme étant les nouveaux bons personnages, les nouveaux sauveurs.
Moralité en politique, il ne faut surtout pas ostraciser l'opposant.
Surtout dans un pays qui, malheureusement, comme je vous disais, est un jeune État où, en fait, on a encore le pouvoir de réécrire l'histoire à chaque minute. Ce qui est, à mon sens, le plus grand problème actuel. Parce que Mohamed Yunus, aussi, je pense que ça permet aussi de faire le lien, c'est que c'était un des seuls hommes politiques qui ne faisait ni partie de la Liga Omi, ni du BNP, donc le parti de Jaoul Rahman. Donc, il n'était pas dans ces querelles politiques de vengeance, etc. Ça, c'était un des premiers points. Mais moi, j'observe encore ce qui se passe. Donc, comme il avait annoncé que les élections devaient avoir lieu en fin d'année. Alors, évidemment, c'est compliqué quand il n'y a pas de parti politique stable, qu'on ne sait pas si la Ligue Omi va participer. Moi, la seule chose que je remarque et qui est inquiétante par rapport à l'écriture de l'histoire, même s'il y a plusieurs romans nationaux, c'est donc 5 août, fuite. 8 août, il y a la destruction de la maison musée de Cheikh Mujibur Rahman, qui est un haut lieu symbolique, pas simplement politique, qui était sa maison, mais qui en fait regorgeait de documents officiels. Où moi je dis souvent que en fait, s'il y a eu des problèmes de dictature, etc., on ne brûle pas, mais on met à côté des explications. Et on a laissé passer. On a laissé faire clairement le 8 parce que l'armée était présente. Donc ça, c'est les premiers éléments qui m'ont inquiétée. Et la deuxième chose, c'est de laisser dire, parce que là, il y a un certain nombre de leaders de la Jamaat-e Islam qui sont en train de dire, si vous prouvez, vous nous montrez que nous étions responsables des crimes de guerre de 71, alors, etc. Et le problème, c'est que je pense sur ces points clés, il faut être ferme. Ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas pu évoluer, qu'il n'y a pas de nouveaux leaders qui pourraient arriver. Mais là, je pense que quelqu'un comme un leader comme Mohamed Yunus, qui doit quand même vraiment réussir à... alors certes, Liga Omi est critiquée, mais il faut qu'il réussisse à rassembler le peuple.
Y compris avec ce qu'on appelle les minorités, alors que dans un État démocratique, il ne devrait pas y avoir de minorité, si ce n'est au Parlement. Quoique le Parlement du Bangladesh, c'est une institution monocamérale. Oui. Il n'y a qu'une seule chambre, la Chambre de la Nation.
Oui.
Et là, je vous ai interrompu dans votre élan, la représentation du peuple tient compte de la minorité hindoue, des bouddhistes, j'imagine des musulmans, mais ce n'est pas parce qu'on se prévaut de son appartenance confessionnelle.
Alors oui, pour quand même un petit peu pas être trop critique non plus, là on a eu les célébrations du Nouvel An Bengali, Poyla Boishak, et justement c'est un moment très spécifique de la culture folklorique avec à peu près toutes les traditions religieuses, culturelles, etc. qui participent, et donc ça s'est très bien passé sans encombre, et ça c'est sous ce nouveau gouvernement intérimaire. Maintenant le problème, ça va être vraiment de regarder avec qui ce nouveau gouvernement intérimaire va négocier pour pouvoir organiser ces élections. Et il y a vraiment déjà cette question de ce que vous disiez, est-ce que cette organisation est vraiment légitime? Est-ce qu'elle représente le peuple? Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète parce qu'on en parle de manière... Enfin, voilà, par exemple, déjà, on ne voit jamais de femmes. Alors que pourtant, au moment des révoltes qu'il y a eu, les manifestations, il y avait énormément de femmes, de filles, de jeunes filles. Là, dans les tout nouveaux partis politiques dont on parle, dans les nouvelles organisations, on ne voit jamais nullement aucune femme. Et moi, c'est un des premiers points, presque le plus important pour moi par rapport à ce qui se dit. Alors, je parle évidemment pas des femmes comme les premières ministres que nous avons vues. Mais voilà.
On considère le degré d'avancée éthique et politique d'une société à l'aune de la situation des femmes en leur sein, ou au sein de cette société. Si les femmes sont heureuses, épanouies, participantes, c'est que cette société est valide et saine, à la fois sur le plan éthique et politique. Si elles sont opprimées, minorées, c'est qu'il y a un problème. Et donc, votre inquiétude de ne pas les voir participer à la chose politique est un signe d'une quelconque préoccupation majeure, d'une maladie, si j'ose dire.
À mon sens, aujourd'hui, dans... Encore une fois, mon analyse du Bangladesh, c'est que c'est une société qui a, je dirais, presque triple vitesse, mais aussi une société qui, pour les raisons que vous, les entrepreneurs islamistes, les madrassas dont je vous parlais, qui ne sont pas forcément encadrés, une société de plus en plus intolérante. Que ce soit envers les femmes, que ce soit envers les minorités religieuses, toujours avec cette idée de l'idée qu'il y a existerait un islam authentique. Par exemple, il y a un point aussi dont je vous ai pas du tout parlé, mais qui est quand même très important. Alors, je vais pas parler là, ici, forcément d'influence salafiste, c'est pas ça, c'est plutôt... vous savez, le Bangladesh, encore une fois, ce pays peuplé, a besoin de beaucoup, beaucoup d'échanges, et il y a un certain nombre de travailleurs qui vont... d'échanges de travailleurs, en fait, qui vont dans les pays du Golfe. Alors, il n'y a pas que ça, mais quand même. Et cela produit une sorte de, j'ai appelé ça comme ça, une salafisation des normes culturelles et islamiques au Bangladesh. Et c'est notamment ce qui se passe, c'est qu'on voit que ces travailleurs, pour la reconnaissance et le statut, souvent quand ils vont envoyer de l'argent dans leur famille, campagnes, ça va être à travers l'établissement d'écoles coraniques, soit des madrassas, soit des mosquées. Et alors, ça, encore une fois, c'est pas, le problème n'est pas l'établissement de ces écoles coraniques, c'est toujours l'idée... Je vais vous donner juste une anecdote, je pense qu'elle sera assez représentative, et elle met en lien à la fois ce phénomène des travailleurs qui vont dans les pays du Golfe et la question de la femme. C'était un été où j'étais dans un village, il y avait des problèmes de coupure de courant d'eau, et c'était voilà très très chaud, il fallait que... D'ailleurs, c'était marrant, c'était un de mes premiers stages avec la Grameen Bank à l'époque, donc organisme de microcrédit. Ça faisait 2 jours, il fallait que j'aille me doucher, donc je pose la question aux gens autour de moi. Et j'étais avec des garçons qui, eux, sincèrement, c'était pas important pour eux, moi, il le fallait. Et donc, il y a une des personnes qui s'occupait de l'organisme qui me dit, bon, ok, on va t'emmener chez la plus riche du village. Voilà, premier élément. L'argument économique est très, très important. Donc, j'arrive chez eux. Puis, on m'accueille avec gentillesse, mais c'était pas la maîtresse des maisons. C'est plein de domestiques, plusieurs personnes m'accueillent. Et ils me disent, attendez, donc je me douche, il faut que vous rencontriez la personne qui vous accueille. Je dis, ah, mais oui, bah, merci beaucoup. Je rentre et en fait, ils me font passer à travers 2 salles, 2 petites pièces. Et là, je retrouve une femme qui, je sais plus ce qu'elle portait, très sincèrement, j'ai dû l'écrire, mais... Et qui, voilà, on discute, et puis elle me dit, ah ben, vous savez, voilà, moi, je viens d'ici, est-ce que vous aimez ma maison? Mon mari travaille au Qatar. Je dis, ah, très intéressant. Elle me dit, vous savez pourquoi on se retrouve ici? C'est le mois du Ramadan. Je lui dis, bah oui, je sais bien. Elle me dit, bah, parce que vous savez, pendant le Ramadan, et vous allez comprendre mon sujet de thèse avec ça, pendant le Ramadan, les femmes ne doivent pas voir les hommes.
Ah oui, mais c'est nouveau.
Et c'était, sincèrement, je commence ma thèse avec cette anecdote de... Alors, là-dessus, il y a tous les éléments. La femme qui produit, ou en tout cas qui tente de m'expliquer une norme que je ne connaissais pas, parce que je me disais, ah ben, je ne savais pas du tout. De l'autre côté, en fait, ce que je comprenais aussi, c'est que sa légitimité pour parler, dire ça, ça venait du fait qu'elle était aussi la plus riche du village, permis par son mari qui habite au Qatar. Donc, tous ces éléments-là. Donc, je vous donne toute cette anecdote, oui. Excusez-moi, je pars...
Non, mais vous avez raison. Alors, ceci m'amène à poser la question sur le plan... disons culturel. Quelles sont les grandes figures à côté de Nazrul Islam, immense poète 1899-1976, à côté de Rabindranath Tagore, parce qu'il fait partie du patrimoine bengali, sont-ils enseignés, sont-ils étudiés? Est-ce qu'on reprend leur poésie, leur vision du monde, leur métaphysique?
Alors, tout à fait. Tagore, Nazrul, un certain nombre de poèmes. En fait, il y a quand même une certaine mixité. Et justement, encore dans les manuels scolaires, on essaie de transmettre l'identité mixte de à la fois hindous, musulmanes et autres. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des consensus, des compromis, de retrait quand il y avait des non-hindous. C'est ça qui est problématique. Après, aujourd'hui, et je pense que c'est profondément ça aussi que j'essaie de souligner, c'est qu'il y a des disparités telles entre... Vous savez, le système scolaire, j'aurais dû commencer par ça, est divisé à peu près, pour aller vite, en trois filières. École coranique, école publique, et les écoles publiques, elles sont entre le école privée, école publique, et il y a les English Medium School, donc en anglais, et les médiums uniquement en bengali. Donc déjà, entre ces trois-là et entre d'une région à une autre, il y a énormément de disparités dans ce qui est inculqué en termes de programme pur, en termes de lecture. Et selon si on vient de certaines familles, donc par exemple dans les English Medium, aujourd'hui donc c'est uniquement l'enseignement en anglais, donc plutôt des familles aisées, parce que ça demande un petit peu plus d'argent. Dans beaucoup d'entretiens que j'ai pu avoir, on va se rendre compte que ce sont des élèves qui lisent quasiment plus du tout en bengali. Et qui vont parfois même, et là j'exagère pas, à des moments parler le bengali avec un accent. Un peu. De l'autre côté, le bengali, le bengali medium, c'est beaucoup plus ceux qui vont avoir un excellent bengali. Mais les écoles sont pas forcément reconnues à l'étranger, donc c'est difficile pour aller faire des échanges. Et le troisième point, c'est la filière dont je vous parlais tout à l'heure, des écoles coraniques, où alors là, c'est quand j'ai pas les noms des ouvrages, mais c'est vrai que quand vous allez demander à un jeune quels sont tes ouvrages préférés, ça va être parfois, moi j'ai déjà eu l'ouvrage sur l'apocalypse à ce moment-là, etc. Alors que si vous regardez d'autres familles qui viennent plutôt d'un milieu académique littéraire, ça peut être des philosophes comme Ahmed Sofa qui a écrit sur l'esprit des musulmans. Et donc je pense qu'il y a une, alors c'est vrai dans tous les pays évidemment, hein, mais ce socle commun qui existait autour d'auteurs, comme vous dites, comme Tagore ou Nazrul, il est de plus en plus en train d'être mis à mal. Et d'ailleurs, parfois avec des discours, donc heureusement que Nazrul est un poète, donc le poète rebelle musulman, avec des discours sur pourquoi est-ce que l'hymne du Bangladesh a été écrit par Tagore, qui vient du Bengale, qui vient de l'Inde.
Alors, nous arrivons au terme de l'émission. Nous vous aurions écouté avec plaisir et plus longtemps. Vous aurez à revenir, si vous voulez bien, Sharza Shahabuddin. Je le dis pour nos amis auditeurs, vous êtes docteur en sciences politiques et vous êtes une enquêtrice du terrain. Votre thèse de doctorat a porté sur la production de ces nouvelles normes islamiques au Bangladesh. Construction, négociation et violence. Vous enseignez à Sciences Po Paris, à l'INALCO. Et, chers amis auditeurs, vous retrouverez l'émission, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture. Et vous pourrez la podcaster, la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son est assurée aujourd'hui par Grégory Wallon. Et la réalisation est assumée par l'ami François Connac.